cours de philosophie de la nature par le père Marie-Dominique Philippe à Saint-Jodard, le 2 novembre 1995.
Nous allons continuer cette réflexion à partir du mouvement, de plus exactement de ce qui est mu. Le jugement d'existence est présent à toute expérience humaine. Et la philosophie commence par l'expérience. Ce qui est mu, c'est très important. Si vous commencez par le mouvement, vous n'en sortirez pas. Tandis que vous commencez par ce qui est mu. Et nous voyons que tout de suite, la cause matérielle implique la cause formelle. Et c'est ce qu'il y a de tout à fait particulier à cette expérience, ce qui est mu, c'est que je ne peux pas séparer, mais je peux distinguer la matière et la forme. Mais je ne peux pas les séparer, ils sont dans l'immanence parfaite. Ce qui caractérise la nature forme, c'est d'être immanente à la nature matière. La forme est éduite de la matière. Et donc la matière est première d'une certaine manière. Puisque la forme est éduite. Alors, éduite, c'est très difficile à bien comprendre ce que c'est. C'est-à-dire provient de. Et gérer, tout gérer, conduire, et de là, la forme est conduite à partir de la matière. La forme n'est pas conçue avant. Elle est conçue à partir de la matière et dans la matière. Et cependant, elle n'est pas la matière. Ici, là, tout de suite, on voit la différence entre la morphée. L'eidos, la morphée grecque, c'est justement la forme physique, la forme saisie dans la matière, à partir de la matière, éduite de la matière. Tandis que l'eidos artistique est l'idée forme, il faudrait dire l'idée forme. Ou la forme idée, bien mieux l'idée forme. L'idée forme est engendrée, elle apparaît à partir de l'esprit, à partir de l'inspiration. La source de l'eidos, de l'idée forme, c'est l'inspiration. C'est pas si commode que ça de savoir ce que c'est que l'inspiration au plan de vue philosophique. Mais je peux dire que l'idée forme naît de l'inspiration. L'inspiration n'est pas quelque chose de matériel, c'est quelque chose de spirituel. C'est tellement spirituel que facilement on dit que l'inspiration vient des dieux. Il y a quelque chose qui nous apparente au Dieu dans l'Antiquité. Il y a quelque chose de spirituel, l'eidos. Elle est séparée de la matière. Elle est intentionnelle. Vous voyez, et c'est intéressant. Parce que n'oublions jamais que c'est l'eidos qui nous donne le premier concept de la forme, la première saisie de la forme. C'est d'abord l'eidos artistique avant de saisir la morphée. Et ça a beaucoup de conséquences. première. En philosophie de l'art, on saisit la Morphée à partir de l'œuvre d'art, pas à partir de l'inspiration. Parce que, à partir de l'œuvre d'art, on saisit la Morphée et on voit que la Morphée provient de mon intelligence artistique. L'intelligence est liée à l'imaginaire, liée au sensible. Et c'est cette intelligence liée à l'imaginaire et au sensible et à l'affectivité qui est source de la Morphée, qui est source de l'aïdos. Génétiquement, parce que ce qui est premier génétiquement, très facilement te laisse sa trace à toutes les autres saisies analogiques. La forme est une notion analogique, donc elle a des modalités très différentes. Sa première modalité qu'on saisit, c'est l'aïdos. Donc c'est une forme séparée. Qui existe avant d'être dans l'œuvre. Elle est antérieurement et elle est ce qui détermine, ce qui d'une certaine manière mesure la Morphée et l'Aïdos. Donc l'Aïdos est d'une certaine manière, cause exemplaire. Elle n'est pas cause finale, mais elle est cause exemplaire. Et elle mesure la matière, et elle mesure l'œuvre. Et elle vient de l'homme. Tandis que la Morphée, forme physique, elle est immanente à la matière. Elle provient de la matière et elle détermine la matière. Et elle est inséparable de la matière. Elle n'existe pas en dehors de la matière. C'est le couple. Alors, le couple, voyez, idée forme et matière. Au point de vue artistique, il y a séparation entre les deux. L'aïdos existe seul, la matière existe seule. Et je conçois ou je regarde la matière en fonction de l'aïdos. Et on vous l'a montré nettement quand il s'agissait de réaliser un vitrail. On a une idée, puis ensuite on choisit sa matière. Et on la choisit en fonction de l'aïdos. Et c'est vrai pour tout sculpteur. Dès qu'on voit un sculpteur travailler et qu'on essaie de comprendre un petit peu son travail artistique quand il veut bien vous l'expliquer. Parce qu'ordinairement, ils sont muets, les sculpteurs. Ils n'aiment pas qu'on les parle. Comme les artistes. Hein. Les artistes n'aiment pas du tout. Vous leur demandez comment faites-vous ça, pourquoi faites-vous ça, comment faites-vous... Ordinairement, ils vous donnent un pinceau et puis allez-y. Vous comprendrez. C'est ce que fait un sculpteur. Allez, sculptez, vous voyez. C'est très significatif, ça. Et l'aïdos est silencieuse. C'est Morse. y a un combat, il y a une lutte, il y a un travail, il y a une lutte entre l'eidos et la matière. Tous les deux existent en même temps. Hein? Pas les deux, tous les deux existent en même temps, parce que l'eidos est antérieur. Et on choisit la matière en fonction de l'eidos. C'est pour ça que la matière dont se sert l'artiste n'est pas du tout la matière de la philosophie première. Ne confondons pas. La matière de la philosophie première, vous voyez, est regardée en premier lieu. C'est pour ça que la matière aime tellement la philosophie de la matière, parce qu'on la respecte en philosophie de la matière. On la regarde pour elle-même. On regarde sa physionomie. Elle n'est compréhensible que dans ses déterminations. Mais c'est sa potentialité, en quelque sorte, qui est regardée en premier lieu. C'est très curieux. Tandis que, dans l'art, vous ne regardez la matière qu'en fonction de l'eidos. Donc, la matière est toujours regardée en second lieu. Et dans la lumière de l'eidos. Et donc, la matière n'est pas regardée du tout d'une manière spéculative. Regarder en vue de l'œuvre et pour l'œuvre, ce qui dépayse complètement en philosophie de la nature, c'est que vous regardez la réalité physique pour elle-même, ce qui est mu, et regardez pour ce qui est mu et qu'on veut le connaître. Alors à ce moment-là, la forme est regardée distincte de la matière, mais inséparable de la matière. Regardez à travers la matière, parce qu'elle est éduite de la matière. Elle est distincte, elle détermine. Des deux côtés, la forme détermine. C'est pour ça qu'on dit forme des deux côtés. Parce que c'est propre de la forme de spécifier, de déterminer. Mais la détermination se fait totalement différente. Dans l'œuvre artistique, la détermination de l'eidos, de l'idée forme, est toujours extérieure et transcendante. Du côté de la philosophie, de la nature, la morphée est immanente. Elle n'a rien de transcendant. Elle est immanente. Et c'est pour ça que c'est si difficile de bien la saisir. Et elle est ce qui change. On passe une morphée à l'autre morphée. Au contraire. Elle est ce qui est changé. Mais elle est déduite de la matière. Elle provient de la matière. Elle est victorieuse à la matière, mais d'une victoire passagère, puisque tout ce qui est physique est corruptible. Et quand on dit corruptible, c'est la victoire de la matière sur la forme. Donc la morphée, elle est victorieuse à un moment donné, mais elle sait que sa victoire est passagère. Très étonnant, ça. Et c'est très, très significatif. C'est pour ça que vous ne pouvez pas la regarder pour elle-même. Elle n'a pas de drapeau. Elle n'est pas possible. Comme il n'est pas possible de saisir la matière seule, il n'est pas possible de saisir la morphée seule. Ça, je veux dire, quand elle dit qu'elle est passagère. Cependant, elle existe comme morphée, comme détermination propre. Et cette détermination propre va avoir sa propre finalité. C'est une finalité immanente. Ce n'est pas une finalité transcendante. Pour ça, c'est une finalité très particulière. C'est une finalité qui se comprend toute relative à la forme. tiens, alors c'est là où il serait intéressant à voir. Hein. Ce petit schéma à préciser. Un tiers. Forme. Elle est immanente. Et le point de vue de la fin. Quelle est la fin du corps physique? Ce qui est mu. Y a-t-il une finalité? Ce qui est mu. Y a-t-il une finalité? Il y a une finalité dans le mouvement, puisque ce qui est mu est toujours mu et ne peut être saisi que dans son mouvement. Donc il y a une finalité à l'intérieur du mouvement, comme la cause efficiente est immanente elle aussi. Alors, entre la forme et l'efficience, la cause efficiente et la fin, alors il faut saisir cela à travers ce qui est mu. Une analyse très particulière et très intéressante, puisque de fait, on reste toujours en contact avec ce qui est mu. Je ne peux pas me séparer de ce qui est mu. Et c'est dans l'immanence, la cause efficiente dans la réalité physique n'est pas transcendante. Rien n'est transcendant dans le physique. C'est l'immanence. Alors, la cause efficiente, c'est quoi par rapport à ce qui est mu, par rapport à la distinction matière et forme? C'est que la forme détermine. Puisqu'elle détermine, elle a son orientation. Et c'est sa finalité, son orientation. Puisque la fin n'est pas extrinsèque. Il y a une finalité, mais elle n'est pas extrinsèque. Il y a une finalité, pourquoi? Parce que il y a un mouvement. La forme comme telle n'est pas la fin. Quelle différence y a-t-il entre la fin et la forme? C'est que la fin attire. Donc, elle permet une causalité efficiente. Elle permet un exercice. Cette cause, ce qui est mu, implique un exercice. Parce que ce qui est mu implique cet exercice. Et un exercice orienté, déterminé, finalisé. C'est très curieux de voir comment Aristote précise la finalité de la nature. C'est le ut in pluribus. C'est ce qui arrive la plupart du temps. La plupart du temps, il y a cette détermination et ce développement, ce mouvement qui atteint la fin. La plupart du temps. Mais il y a toujours une possibilité d'échec. Quand on est dans l'ordre physique, on n'est jamais dans quelque chose d'éternel. On est toujours dans quelque chose qui est mu. Et donc quelque chose qui change. Et c'est ça qu'il y a de si décevant dans le monde physique. Ça change tout le temps. Ça vous casse dans les doigts. Vous ne pouvez pas goûter dessus. Ça, c'est notre monde physique. Alors, je comprends très bien comment la science qui s'appuie sur le monde physique arrivera à la relativité. Tout est relatif. C'est évident. se manifeste d'une manière relative. Voilà ce qu'on doit dire. Je ne dis pas que tout est relatif, parce que si tout est relatif, il n'y aurait pas de principe. Il y a des principes. Mais tout se manifeste dans la relativité. La relativité de la forme, la relativité de l'efficience, la relativité de la finalité. Pourquoi ? Parce que la matière est victorieuse. Et l'indétermination de la matière est cause du hasard, de la non-finalité. Ça craque. Qu'est-ce que c'est que le hasard ? C'est la défaite de la finalité. Or, dans le monde physique, il y a le hasard. Mais il y a aussi la finalité. Mais la finalité n'est pas toujours victorieuse. Et c'est parce que la finalité n'est pas toujours victorieuse que vous ne pouvez pas avoir scientifiquement, dans le monde physique, au point de vue philosophique, un raisonnement par la finalité. Je ne sais pas quelle est la finalité de ce monde. Philosophiquement, je ne sais pas. Qu'est-ce qui va devenir ce monde ? Je n'en sais rien. Il change tout le temps. Il est mu. Ah, c'est décevant de ne pas savoir la finalité. Hein. Et ce que je m'aperçois, c'est qu'il y a du hasard tout le temps. Vous voyez, c'est très curieux, je vous l'ai déjà dit, cet article qui est apparu dans le monde, qui n'est pas scientifique au sens absolu, qui est intermédiaire, si vous voulez, qui s'appuie sur des faits constatés, de voir que notre monde est en train de branler. Il a la maladie de Parkinson. Il tremblote. Ce qui avant semblait net, précis, non, ça n'est plus. Jusqu'aux saisons. Il y avait des régions tempérées, des régions tropicales, des régions polaires. On a l'impression que maintenant ça se balade. On est devant ça, alors. D'où ? Qu'est-ce que ça vient ? Ça vient d'où ? Est-ce que ça vient de la nature ? Pas sûr du tout. C'est tellement curieux. Mais c'est un drôle de phénomène. Hein. Sentir le sol trembler. Vous avez déjà subi des petits tremblements de terre. Moi, j'en ai subi en Suisse. J'étais au second étage. Parce que plus on est haut, plus c'est troublant. Alors, pendant un certain temps, on a l'impression que tout tremblote. Il a dit, ça va aller jusqu'où ? Parce qu'à un moment où je ne pourrai plus revenir, ça va dégringoler. Heureusement que ça ne dure pas très longtemps, alors on n'a pas le temps d'y réfléchir. Et si on est chrétien, on fait son acte de contrition. Et puis ça... Il disparaît en dessous du toit qui va dégringoler. C'est. Parce que le mouvement tout près du sol suit. Et quand il s'élève, on sent très bien. Et qu'il suit, mais il y a une autre loi. Donc il y a deux lois différentes. Et il y a un petit combat qui se fait. Mais je crois qu'il faut voir ça. Il faut comprendre pourquoi. Certains philosophes ont dit, et aujourd'hui ça se dit couramment, pas de philosophie de la nature. C'est pour ça que j'aime mieux dire philosophie de la matière, moi, dans notre monde d'aujourd'hui. Alors, cette matière, elle se présente sous la nature, mais dans un tremblement constant. Et c'est vrai, ça, c'est ce qu'on constate, ça. On est devant moins de détermination, plus de hasard qu'avant. Puisqu'on précise la finalité dans le fait que cela arrive toujours, la plupart du temps. pas toujours, mais la plupart du temps. Dans la mesure où ça arrive la plupart du temps, tiens, il y a finalité. Dans la mesure où, justement, ce plupart du temps laisse un intervalle d'indétermination, tiens, le hasard. C'est curieux, ça, hein? Le hasard étant la non-finalité, étant donc la victoire de la matière. Et la finalité, c'est la victoire de la forme. Alors, c'est intéressant de voir que la finalité en philosophie de la nature, elle est présente, la victoire de la forme sur la matière. Elle existe, cette victoire. La forme, comme détermination, est victorieuse à la matière indéterminée. Mais c'est une victoire relative. C'est pas une victoire absolue. Et donc, cette forme, cette morphée, cette détermination, ne peut pas assurer une nécessité vis-à-vis de la fin. Or, en science, il faut la nécessité. En philosophie, il faut la nécessité, le katoto. La perséité, la nécessité. Or, entre la forme et la finalité, il n'y a pas une finalité absolue. Parce que l'exercice qui conduit la forme à la fin n'est pas nécessaire. La matière, de temps en temps, l'emporte en tant que matière. D'où le hasard. Et donc là, il y a une constatation extrêmement importante et délicate entre matière, morphée, exercice. Oui, exercice, mettons ici 3, et puis 4. Vous voyez, l'ordre de ces 4 causalités, c'est tout à fait l'ordre du devenir. La matière, d'où est-tu la forme. Vous allez me dire, mais comment la forme arrive-t-elle si elle est déduite de la matière? Elle est déduite à partir de quoi? Ah, alors c'est là où la cause efficiente, émanante, va agir. Alors elle agit, on verra ça, elle agit d'un corps à l'égard d'un autre corps. Est dans l'immanence. Elle n'est pas visible. Et c'est ce qui fait qu'on constate des faits. On dit qu'il y a eu un exercice, il y a eu un mouvement. Il y a eu un glissement, comme on dira. Un glissement, oui, un glissement. Mais pourquoi ce glissement? Un glissement vers le bas ou vers le haut? Et le haut et le bas, hein, c'est relatif. Quand il y a un glissement de rocher, pour l'un c'est vers le bas et l'autre c'est vers le haut. C'est très curieux. Et là on voit bien l'immanence. Et je crois que c'est ça qu'on doit retenir, c'est que l'analyse qu'on fait des causalités dans la philosophie spéculative de la matière est une analyse très particulière. Parce que c'est une analyse d'abord où on ne sépare pas. On essaie de voir comment l'immanence de la nature me met devant un monde qui, de fait, est toujours en mouvement, toujours mu. Alors, on se posera la question, est-ce qu'un monde toujours mu peut-il exister par soi? Et on dira qu'un monde toujours mu ne peut pas exister par soi. et on se servira de cet axiome. Tout ce qui est mu est mu par un autre. Ce qu'Aristote se sert constamment, vous voyez ça dans les livres 7 et 8, et ça c'est très intéressant. J'ai essayé de réfléchir là-dessus, parce que j'ai vu que dans la scolastique courante, tout ce qui est mu par un autre, est dit un principe. Alors, est-ce que c'est un principe? Ou est-ce que c'est un axiome? Alors, vous allez me dire, un axiome est un principe, oui. Et quand je dis principe, c'est pas une cause, tout ce qui est mu par un autre. C'est un axiome, en ce sens que c'est la seule intelligibilité que je peux avoir du mouvement. L'intelligibilité du tout. Tout, tout, tout. Quand je pars de l'expérience, ce qui est mu, c'est un individu. C'est un concret. Là, je parle du tout, tout ce qui est mu par un autre. Le monde physique, en lui-même et par lui-même, n'a pas assez d'intelligibilité pour qu'on le connaisse. À cause du primat de la matière, alors il faut nécessairement un autre qui n'est pas de ce monde. Qui n'est pas ce tout, tout ce qui est mu par un autre. Et ça, c'est l'axiome qui commande toute la philosophie du devenir. Il y a un autre, alors quel est cet autre? Aristote dira au terme, c'est le primum movans. Il est mu par un autre, qui n'est pas ce tout. Donc il n'est pas mu. S'il n'est pas mu, primum movans. Alors vous voyez la difficulté, hein. C'est que c'est un axiome. Si c'est un axiome, ça ne peut pas faire poser un premier être existant. Parce qu'un axiome est de l'ordre de l'intelligibilité. Ce qui est mu par un autre, point de vue intelligibilité, c'est très net, puisque tout ce qui est mu est en puissance. Or, ce qui est en puissance n'est pas intelligible par soi, est intelligible par l'acte. Donc, tout ce qui est mu par un autre. C'est l'axiome qui est fondé sur la distinction être en acte, être en puissance. Mais là, vous voyez la difficulté, c'est que je regarde ce tout. Tout ce qui est mu par un autre. Et c'est vrai que je suis en face de quelque chose qui reste toujours mystérieux. Comment c'est mu? Comment ce monde physique est toujours mu? Ça ne peut pas être la matière qui me fait comprendre ça. Ça ne peut pas être la forme. Ça ne peut pas être la finalité. Parce que elle n'est pas tout le temps là. Elle n'est pas nécessairement là d'une façon absolue. Alors, ça ne peut être qu'un autre. Alors, vous passez de vous servez d'un axiome intelligible pour poser une réalité existante. Ceci, en logique, c'est de l'ontologisme. Mais l'autre, qu'est-ce qu'il est? Mais l'autre est nécessairement existant, puisque ce qui est mu existe. le mouvant existe. Donc, l'autre est nécessairement existant. Mais comment vous le posez en fonction, justement, de l'intelligibilité de ce qui est mu? Et c'est une intelligibilité qui, au fond, implique aussi une existence. C'est pas le principe de causalité, ça. Efficiente. On en a fait le principe de causalité efficiente. Tout ce qui est mu par un autre. C'est vrai, ça se fond sur ce principe d'efficience. Il faut toujours que l'acte soit antérieur à la puissance. Il faut toujours que l'acte actue l'exercice. Et vous l'exprimez de cette manière-là. Alors, c'est très juste et c'est très intéressant d'exprimer de cette manière-là. Parce que ça vous montre que le monde physique, vu en lui-même, est fermé sur lui-même. Serait inintelligible. Il est intelligible grâce à l'autre. Mais l'autre, vous ne le voyez pas. Il a cette capacité de se cacher merveilleusement. Vous ne le voyez pas. Là, on pourra avoir toutes les hypothèses. Et ça qui est intéressant à voir. Aristote, lui, se sert tout de suite l'autre, c'est le primum movans. Mais saint Thomas, je veux dire, mais Aristote, dans sa métaphysique, lorsqu'il se sert du livre lambda, ne se sert plus de ça. Il se sert de l'acte de la puissance. Alors la grosse question pour nous, c'est de savoir si on est obligé de se servir de cet axiome pour prouver l'existence d'un être premier, ou si on peut se servir directement de la métaphysique. La philosophie de la nature est toujours encombrante, puisqu'elle ne saisit pas du nécessaire absolu. Elle est encombrante. Elle est analogue. Comprenez bien, elle est analogue comparativement à la métaphysique, à la politique par rapport à l'éthique. Parce qu'on ne saisit pas du nécessaire absolu. Vous comprenez bien. Puisque la finalité n'est pas toujours donnée, donc je ne peux pas me servir de la finalité. Certains ont dit, j'ai entendu ça, Aristote ne sert pas de la finalité, vous servez de la finalité. Aristote ne sert pas de la finalité, alors qu'est-ce qui fait le bouche-trou? C'est l'axiome. Je peux très bien me servir de la finalité dès que je suis en face de la personne humaine, et non plus du monde physique. C'est ce qui explique pourquoi, pour découvrir l'existence de Dieu, on doit partir de la personne humaine et non pas du monde physique. Autrement, j'ai au fond, à l'intérieur de ces voies, un certain ontologisme. Ce que Kant a remarqué. Sans parler de saint Thomas, sans parler, il a parlé de ce chez qui c'est très visible, mais c'est latent chez Aristote. Et saint Thomas a repris ça, tout simplement. Parce que c'est pas son métier de faire ça. Ce qu'il cherche, c'est faire une théologie. Et je crois que c'est très important pour nous de réfléchir avec très froidement. C'est pas parce qu'on l'a toujours fait. La scolastique l'a fait qu'on doit le faire. On doit réfléchir à ce fait, la découverte dans ce qui est mu de ces diverses causalités, matière, forme, finale, efficiente. Matière, forme, efficiente, finale. Ça, je crois qu'on peut tous saisir ça et dire la phusis alors. C'est ça la phusis.